Oui, bonjour. Donc, c'est Oumu Guiraud, chroniqueuse littéraire pour le magazine Dignité Noire. Aujourd'hui, on est lundi. Donc, ça fait 2 semaines que je ne suis pas venue au studio et je suis vraiment super contente d'être là aujourd'hui parce que aujourd'hui, je reçois en vrai, en live, Gaston Nda Legana Mumpere. Je tiens à dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas reçu des invités au studio pour ma chronique. Donc, merci Gaston d'avoir répondu présent à l'invitation. Je vais te présenter brièvement. Donc, Gaston, tu es né en République démocratique du Congo. Tu détiens un baccalauréat en philosophie de l'Institut supérieur d'Emmanuel Dazon de Butembo. Tu as également un baccalauréat et une maîtrise en théologie de l'Université Laval à Québec. Et tu achèves ton doctorat en théologie. Et tu travailles comme intervenant en soins spirituels au sein des établissements de santé du CHU de Québec. Merci Gaston d'être là.
Ça fait plaisir, vous.
Oui, donc il y a 2 semaines, j'avais interviewé Suzanne qui a créé sa maison d'édition Terre d'accueil. Donc c'est en découvrant Suzanne que j'ai découvert ton roman. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de t'inviter, surtout que tu habites à Québec. Donc j'aime bien poser cette question-là pour les auteurs. Toi, comment, depuis quand en fait est-ce que tu écris?
Ah, c'est une grande question, Oumu. Et depuis quand, publié peut-être, je peux savoir, mais en tant qu'étudiant ou en tant que chercheur, j'écris, mais parfois c'est pas publié. Mais les 2 romans que j'ai publiés, c'est depuis 2016, à Québec. Le premier roman, c'est Les cloches. La cloche ne sonnera plus. Les viols n'étaient pas assez. Ça, à République démocratique du Congo. Donc, 2016. Puis le deuxième roman, 2022, il y a quand même un décalage. Donc voilà les 2 romans que j'ai publiés. Mais écrire, c'est ma passion. C'était un espace de liberté et on s'amuse bien. Il y a pas, j'arrive des pays où il y a la guerre, mais dans l'écriture, il y a comme cette paix, il y a comme cette démarche intérieure, cette démarche spirituelle.
Oui, bah c'est ce que justement, on va en parler de la guerre et puis de ce que vous écrivez aussi. Donc tu as écrit ton premier roman qui est un livre de fiction publié aux éditions Terre d'accueil. Pourrais-tu nous raconter en quelques mots l'histoire du déchirement que tu as écrit?
Les déchirements, c'est le deuxième roman que j'ai publié aux éditions Terre d'accueil. C'est un déchirement à plusieurs niveaux, que je peux dire. D'abord, au niveau même de l'écriture, de la forme de l'écriture, du style que j'ai adopté dans ces romans, c'est une fiction. J'aurais pu écrire quelque chose d'engagé, quelque chose de politique, mais j'étais déchiré entre une écriture d'engagement puis une écriture de fiction et roman. C'était déchirement aussi entre l'Afrique et puis l'Amérique du Nord. Est-ce que je vais passer ma vieillesse en Amérique du Nord pendant que ma famille m'appelle en Afrique pour tel ou tel autre besoin? Donc, du matin au soir, on est déchiré. Puis ce déchirement devient plus béant, plus gros le soir. La première phrase de mon livre, ça commence par c'est le soir. C'est le soir où on arrive à la maison, puis on essaie de faire les bilans de la journée, puis on est déchiré. Finalement, est-ce que je dois envoyer l'argent à ma tante qui est dans le village, telle part? Finalement, est-ce que je dois soutenir la scolarité de ma nièce qui est au Congo? Qui m'oblige de le faire? Je suis déchiré. C'est ça ce que je voulais mettre dans les livres. Les parcours d'immigrants partout au monde, c'est des parcours de déchirement.
Oui, justement, ben, au début du livre, vous employez un mot que j'ai beaucoup apprécié parce que vous parlez de tiraillement. Vous dites que vous êtes tiraillé. Bon, là, vous parlez de déchirement, mais au début du livre, vous parlez de tiraillement. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que, en tant qu'immigrant, comme vous l'avez dit, on est parfois tiraillé entre le pays d'accueil et le pays d'où on vit. Comment est-ce qu'on peut faire? Je sais que c'est une question un peu parce que vous faites aussi un peu de philosophie, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces tiraillements? Est-ce qu'on doit lutter contre ce tiraillement?
Bonne question. Est-ce qu'il faut lutter contre? Je ne sais pas. Je pense que la déchirure est fondamentale, est essentielle. à notre existence. Mais la cicatrice est peut-être fatale. Lorsque je cicatrise quelque chose, j'affirme beaucoup de choses. Mais les déchirements, oui, c'est la tension, c'est l'existence, c'est existentiel, c'est là. Donc, pour lutter, moi, la question, c'est de la gestion de ces déchirements, parce que ça va exister. Je ne peux pas le boucher. Je ne peux pas dire que je vais le fuir, mais je peux le gérer. C'est ça, là, ce que je voulais mettre dans les livres. Le déchirement est là, il va rester là, on va vivre avec jusqu'à notre mort. Et on est des Africains. Moi, je suis Africain. Jusqu'à peut-être à ma mort, je vais me demander est-ce que je dois vieillir à Québec ou je dois vieillir dans mon village à l'est du Congo. Donc, c'est normal de vivre avec ça. Je pense que c'est la santé. C'est une bonne santé que d'être déchiré. Puis, de gérer ces déchirements, c'est ce qui me semble important, puis pertinent, puis essentiel pour les personnes qui marchent, qui immigrent, qui voyagent. Donc, à ta question, au moins, est-ce qu'il faut lutter? Je ne sais pas. Je dirais qu'il faut peut-être gérer, parce que on peut dire le retour est impossible. Le retour au pays est impossible.
Pourquoi il est impossible, ce retour?
Exactement, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été au pays, par exemple. C'est la réalité de plusieurs. Mm-hmm. Mais je n'hume pas la poussière de chaque matin de mon village. Je suis au Québec, mais il y a un décalage avec mon pays. Il y a des métabolismes différents. Moi, je mange les hamburgers, mais au pays, on mange du foufou avec du poisson salé, du poisson fumé. Je ne l'ai pas ici. Donc, même si je vais à l'épicerie africaine ici, ce n'est pas le même retour au pays. Mais j'ai ça encore. Je fais mes épiceries dans les épiceries africaines, parfois, pour cette nostalgie de chez moi. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, le retour est impossible. Et je m'inspire de Dany Laferrière. Oh, tout le monde les connaît.
C'est oui, on n'a pas besoin de le présenter.
L'immortel. Lui vient d'Haïti. Mais il passe toujours au café, les cafés de son pays. Mais ce n'est pas le même café. Donc, le retour est impossible parce que donc, dès qu'on quitte, on quitte. C'est comme lorsque j'écris quelque chose, ce n'est plus à moi, c'est déjà publié, donc ça m'échappe. C'est impossible de faire marche arrière. Donc, c'est la gestion des choses qui me semble important puis nécessaire.
Parfait. Dans votre livre aussi, tu parles de la 41e rue. Donc, rue que je n'avais jamais entendu parler parce que ça fait pas longtemps que j'habite à Québec. C'est la limite entre Limoilou et Charlebourg. Et en fait, donc, comme je vois, tu t'es inspiré en fait de la ville de Québec pour écrire ta fiction. Est-ce que plus loin dans l'histoire, il y a d'autres références à la ville québécoise?
Il y a la rivière Saint-Charles. Mais j'ai choisi la 41e rue parce que j'habitais tout proche de cette rue. Pendant que j'ai commencé les livres, puis pendant que je prenais les marches, il y avait un restaurant à côté de cette rue. Puis il y a la gare d'autobus, les gens montent, descendent en parc, se saluent, font sourire. Oui, c'est mes filles, il y a des petits chiens, il y a des enfants dans les poussettes. Donc la rue est vivante du matin au soir. Puis en même temps, c'est la frontière entre Limoilou et Charlebourg. Et la frontière est présente dans les livres. Donc, c'est ça que j'ai vu. La 41e rue, pour moi, ça marque plusieurs choses. Cette vivacité, ces rencontres à la 41e rue, mais en même temps, la gestion de la frontière entre Limoilou et Charlebourg, entre l'Afrique et l'Amérique du Nord, entre la crémeuse et la traditionnelle. Donc, pour moi, c'était important de jouer avec cette frontière-là.
J'aime beaucoup les échanges de lettres que tu as écrits parce que dans ton histoire, c'est aussi une histoire d'amour. J'aime les histoires d'amour, même si c'est un peu plus difficile parce que, en fait, dans ton histoire, il y a quand même des traumas. Tout à l'heure, tu as parlé de la guerre. Au début du livre, tu parles d'un assassinat. On parle aussi de justice. Moi, je pose souvent cette question car beaucoup d'auteurs racisés écrivent sur le thème des traumatismes. Est-ce que c'est nécessaire d'écrire sur les traumas?
Essentiel aussi. Ce n'est pas une question seulement réservée aux auteurs qui viennent de l'Afrique, mais je pense que c'est une question à un certain moment de sa vie et qui nous vient à l'esprit. Puis, dans mon cas, je pense que c'est important parce que qu'est-ce qu'on voit à la télé aujourd'hui? C'est ça. C'est ça qu'on voit à la télé. Puis, on ne peut pas esquiver cette question parce qu'elle est quand même présente dans notre quotidien. Et la guerre, moi j'ai vécu dans la guerre, peut-être tu le sais, je suis né dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre, j'arrive en Amérique du Nord, puis je peux pas, mes référents c'est ça, c'est chaque fois de revoir quand j'étais petit enfant, ma mère m'a tenu la main, puis courir parce qu'il y a des milices qui arrivent dans le village. Donc je pense que c'est une question essentielle qu'on doit déposer sur la table, puis la regarder à vérité. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que c'est ça l'être humain? Est-ce qu'on ne peut pas vivre autrement? Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans la fiction, dans les rêves?
Mais exactement, est-ce qu'on ne peut pas vivre autrement?
Pour vivre autrement, il faut mettre la chose sur la table d'abord, la regarder, puis dire, voilà, pourquoi on se déchire autant, pourquoi on viole la femme chaque jour au Congo? C'est possible de vivre autrement. C'est pourquoi je voulais amener cette réflexion, mais aussi amener la fiction, les rêves. C'est pas l'utopie. L'utopie, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais rêver, on peut rêver.
Oui. Merci Gaston. Est-ce que tu pourrais nous partager un extrait de ton livre, un extrait qui pourrait nous parler ou un extrait que tu aimes?
Oui, c'était une bonne question. Le choix est difficile à faire. Je vais prendre à la page 64 pour ceux qui ont le livre. C'est une lettre à Dieu, adressée à Dieu.
Tu vas nous lire un passage. Hein.
D'accord. Pas toute la lettre?
Non.
D'accord. Cher Dieu, c'est le 8 mars. Déjà, très tôt le matin, le vacarme rythme et l'ambiance dans le camp. Les hommes se bousculent pour les préparatifs de la fête. Les affaires s'entassent autour des marmites fumantes où mijotent à ciel ouvert les morceaux de viande assaisonnée de sel iodé. Ces affaires joufflues, sans souliers et parfois torse nus, savourent allègrement du boudin chaud servi en avant-goût sur des feuilles vertes des bananiers. Ma déception est grande. Les femmes à l'honneur se font belles sous les douches situées en arrière des tentes. J'aurais préféré que toutes boudent spontanément la fête. Mais l'obéissance aux hommes semble l'emporter. Je me rallie au consensus et accepte de me prêter au jeu. Je vais faire ma toilette au même lieu que mon amie Stéphanie.
Merci Gaston, merci pour cet extrait. Je vous invite à lire son livre qu'on peut retrouver partout, qui a été édité par les éditions Terre d'Accueil. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. On peut aussi te suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Est-ce que tu as Instagram?
Non.
Ok, sur Facebook, on pourra te joindre. Donc, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite encore beaucoup de succès dans l'écriture, dans la lecture, dans l'écriture surtout. Et puis, on espère avoir un autre roman bientôt.
Merci. Puis, je te remercie beaucoup pour cette belle invitation. Puis, pour cette émission Dignité Noire.
Oui, Dignité Noire.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était un plaisir.
Donc, c'était Oumu. Rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine chronique littéraire.